Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu qui sont diffusés par nos 52 radios et 7 télévisions partenaires dans les 8 régions du Niger. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangu a pour thème « Quelle avancée en matière de prise en charge des malades de la drépanocytose ?» La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire très répandue qui touche particulièrement l'Afrique, mais aussi l'Inde et l'Amérique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la drépanocytose est la première maladie génétique mondiale atteignant environ 50 millions de personnes. Chaque année, 300 000 enfants naissent avec la maladie et on recense plus de 200 000 cas en Afrique. Au Niger, selon les autorités sanitaires, la drépanocytose constitue un problème majeur de santé publique du fait de sa prévalence estimée à 23,2% contre une prévalence de 13% pour le continent africain. À l'occasion de la célébration le 19 juin de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, nous allons avec nos invités voir les avancées enregistrées en matière de prise en charge des malades pour leur meilleure survie. Il s'agit du docteur Ibrahim Samna, médecin au Centre national de référence de la drépanocytose, de madame Hannatou Hamidou, assistante sociale au Centre national de référence toujours de la drépanocytose, de madame Hima Fatima, présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose, et enfin de monsieur Faisal Issa, un malade de la drépanocytose. Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. À la présentation, je suis Rafika Taher. Docteur Ibrahim, je commence par vous. Présentez-nous d'abord le Centre national de la drépanocytose. Quelle est sa mission et quels sont ses objectifs?
Merci Rafika. Et le Centre de référence nationale de la drépanocytose d'abord s'occupe des patients drépanocytaires. C'est un centre qui a été créé par arrêté numéro 011/PRN du 12 août 2009 grâce à une convention de partenariat et de financement entre la République du Niger, notamment le ministère de la Santé, la Principauté de Monaco, l'AMAD qui est une association mondiale de la drépanocytose et l'ALDL qui est l'association et de lutte contre la drépanocytose. C'est un centre qui est à vocation nationale, régionale et internationale. Et le centre a comme vocation, et à travers ses vocations, il y a la réalisation de la prise en charge à travers un volet médical pluridisciplinaire et intégré et psychosocial des patients drépanocytaires. C'est un centre qui assure la formation et le recyclage aussi des professionnels de la santé selon les normes, les nouvelles recommandations de la prise en charge de la maladie. Il intervient dans le cadre de la sensibilisation à travers l'information, la prévention de la maladie à travers la sensibilisation, l'information et le conseil génétique. Et en même temps, c'est un centre qui apporte une expertise dans le domaine de la lutte contre la maladie à travers un partenariat scientifique et médical à travers la sous-région et l'international et dans le développement de la recherche de la maladie. Il assure aussi un partenariat entre les professionnels de la santé, les patients et parents drépanocytaires et les groupes communautaires pertinents et aussi les médias.
Comme je le disais plus haut, la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire. Mais en tant que spécialiste de la question, quelle définition scientifique donne-t-on à cette maladie?
La définition scientifique qu'on donne à la maladie, la drépanocytose, c'est toujours héréditaire et génétique. C'est-à-dire on ne peut être drépanocytaire que si ses deux parents biologiques, à savoir le père et la mère, sont porteurs du gène de la maladie, c'est-à-dire l'hémoglobine anormale S. Donc, c'est une maladie qui se manifeste, par exemple, par divers symptômes. À savoir, les symptômes, en réalité, ce ne sont pas les signes de la maladie, ce sont les complications de la maladie. Donc, on peut alerter à penser à la drépanocytose à travers beaucoup de signes. Par exemple, un patient qui fait des anémies, c'est-à-dire manque de sang à répétition, on peut penser à la maladie. Un patient qui se présente avec des yeux jaunes, nous, scientifiquement, on appelle ça ictère, sont des signes révélateurs de la maladie. À l'enfance, à bas âge, à partir de moins de la naissance jusqu'à 6 mois, il y a des complications qui peuvent faire penser à la maladie, c'est-à-dire c'est des tuméfactions au niveau des dos, des mains des patients, ou bien tuméfactions uniquement au niveau des orteils, ou bien des dos de la main que des fois les parents peuvent prêter à confusion, à une genre traumatisme. Quand ça touche juste les doigts, ils vont penser à un traumatisme. C'est après avoir passé par tous les moyens et investigations, s'ils tombent sur un professionnel de santé, ils peuvent penser à la drépanocytose aussi.
D'accord. Là, vous venez de nous donner les signes,
les
symptômes.
Les symptômes.
Mais comment elles se manifestent?
Et la drépanocytose se manifeste par plusieurs symptômes. Mm-hmm. D'abord, les symptômes, on les classe en deux groupes. Il y a des complications aiguës de la maladie. Comme c'est une maladie du sang, c'est une maladie chronique et à la longue, il y a des complications chroniques. Maintenant, les complications aiguës de la maladie, la première complication et signe révélateur de la maladie que les gens arrivent à penser, surtout même hors des professionnels de la santé, c'est la douleur. Un patient ou bien un enfant qui se plaint toujours des douleurs, cette douleur qui touche les os, c'est une douleur qui est atroce, qui a l'air d'une fracture, que ce n'est pas une fracture. La personne pleure à un point où il ne peut même pas résister. Il va lui dire qu'on lui attache tel segment du membre. C'est des signes qu'il faut penser à la maladie. Devant des anémies à répétition, même une seule fois, il faut penser aussi à la maladie aussi. Devant des infections, des sujets qui sont très fragiles, qui font des infections à répétition, il faut penser à la drépanocytose. D'accord. La drépanocytose, c'est une maladie qui peut toucher toutes les spécialités. Elle est pluridisciplinaire. Donc, devant chaque symptôme, il faut penser à la drépanocytose.
Vous nous avez dit qu'un enfant peut naître drépanocytaire seulement si les deux parents sont déjà malades. Mais est-ce que si c'est un seul parent qui a la drépanocytose, l'enfant peut naître aussi avec la maladie?
Voilà. Donc, la drépanocytose, c'est une maladie qu'on peut poser le diagnostic à travers un examen qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. Cet examen qui est l'électrophorèse de l'hémoglobine, quand on le fait à une personne, ça va sortir sa forme clinique. Une personne normale, indemne de la maladie, son électrophorèse apparaît AA. Une électrophorèse peut mettre en évidence une autre forme qui est AS, qui n'est pas la drépanocytose, que les gens prêtent à confusion, qui disent c'est la drépanocytose. Ça, c'est un porteur de traits drépanocytaires. Mmh. Parce qu'il porte l'hémoglobine normale qui est A. Comme je vous ai dit, la personne normale, elle est AA. L'hémoglobine normale A et l'hémoglobine anormale AS. Donc lui, il est porteur de traits drépanocytaires ou bien il est hétérozygote AS. Donc, il y a des syndromes drépanocytaires majeurs que l'électrophorèse de l'hémoglobine met en évidence qui sont trois formes au Niger. On a les formes SS, SC et S-bêta-thalassémie. Donc, un enfant qui naît avec un syndrome drépanocytaire majeur SS ou SC-S-bêta-thalassémie ne peut hériter de ces deux gènes anormaux qu'à travers ses deux parents.
Seulement donc, si les deux parents...
Si les deux parents biologiques portent l'hémoglobine anormale, il faut forcément que le père et la mère portent le gène anormal.
Si c'est un seul parent...
Si c'est un seul parent qui transmet la maladie, l'autre transmet le gène normal, donc l'enfant sera porteur de traits drépanocytaires. Si les deux parents... Un transmet l'hémoglobine anormale S, l'autre l'hémoglobine anormale S, l'enfant est drépanocytaire, il est SS. Si un des parents transmet l'hémoglobine anormale S, l'autre transmet l'hémoglobine anormale C, l'enfant sera SC, lui aussi, il est drépanocytaire.
D'accord.
Si un des parents donne l'hémoglobine anormale S, l'autre donne l'hémoglobine anormale bêta-thalassémie et l'enfant sera S-bêta-thalassémie aussi.
L'électrophorèse, comme vous l'avez dit, est-elle gratuite?
L'électrophorèse au centre n'est pas dans le cadre de la gratuité. Et pour les enfants âgés de 0 à moins de 5 ans, le tarif plein d'abord, ça s'est fait à 7 600. Maintenant, pour les enfants de 0 à, 5, à moins de 5 ans, ils payent demi-tarif, à savoir donc 3 300.
Une personne peut décider d'aller faire l'examen à tout moment?
À tout moment, le centre, c'est un centre qui est opérationnel. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, une personne qui décide de se faire dépister, connaître son statut, à chaque moment qu'il décide, il peut se présenter au centre. Le laboratoire est là, opérationnel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
D'accord, docteur. Parmi les formes AS, SS et autres là que vous nous avez énumérées, quelle est la plus dangereuse?
Au fait, AS, ce n'est pas drépanocytose. C'est un porteur asymptomatique. Il est là en bonne santé. C'est une maladie du sang. Il ne sait même pas qu'il est malade, des fois c'est quand dans l'ignorance
deux personnes AS ont un enfant,
se marient entre eux, qu'ils vont avoir un enfant porteur de syndrome drépanocytaire majeur qui est SS ou SC ou S-bêta thalassémie. C'est à ce moment-là qu'eux, ils sauront qu'ils sont déjà porteurs du trait. Donc, quand on parle de syndrome drépanocytaire majeur, tous les trois syndromes que je vous ai énumérés sont dangereux. C'est seulement c'est la manière de manifester les crises qui diffèrent. Par exemple, les sujets SS sont plus vulnérables et plus sujets à des crises répétitives. Les sujets SSC, et deux fois, c'est des sujets drépanocytaires que c'est deux fois même, c'est à travers une certaine âge, au-delà de 20 ans. Il y a des personnes, même c'est dans le cadre des personnes âgées, dans le cadre d'une manifestation ostéo-articulaire où on va penser à un truc rhumatismal. Il se présente, c'est un spécialiste, il investigue, il voit de son côté, dans sa spécialité, tout est normal. Il va penser à faire l'électrophorèse et la personne sera SC. Et dans la forme S-bêta thalassémie, il y a deux formes de S-bêta thalassémie. Il y a S-bêta thalassémie majeure et il y a S-bêta thalassémie mineure. S-bêta thalassémie majeure, c'est ça qu'on appelle aussi S-bêta 0. Et S-bêta thalassémie mineure, c'est ça qu'on appelle aussi S-bêta thalassémie plus. Maintenant, entre ces deux formes de thalassémie, il y a une S-bêta thalassémie majeure qui est S-bêta thalassémie 0. Elle se manifeste par des crises qui ressemblent typiquement au drépanocytaire SS. Comparé à l'autre qui est S-bêta thalassémie mineure ou bien S-bêta thalassémie plus, lui, il fait des crises rarement et l'évolution clinique n'est pas la même comparée à l'autre forme.
D'accord. Merci, docteur, pour ces éclaircissements. Faisal, vous êtes malade de la drépanocytose. Comment avez-vous su que vous avez la maladie et de quelle forme vous souffrez?
Je suis drépanocytaire et j'ai la forme la plus sévère dite SS. Et j'ai su que j'ai la maladie et personnellement à 8 mai, mes parents ils ont découvert que j'ai la maladie depuis 6 mois. Ça se manifeste depuis 6 mois.
Comment vous l'avez su?
Par des crises. J'ai fait des crises, douleurs articulaires. On m'amène au centre de référence, on m'hospitalise là-bas, des fois. Et une hospitalisation, ça peut durer une semaine, voire même un mois.
D'accord. La drépanocytose, comme l'a expliqué Dr Ibrahim, est une maladie génétique héréditaire à transmission. Alors, avez-vous des frères ou des sœurs qui souffraient aussi de cette maladie?
Dans ma famille, nous sommes 4 enfants drépanocytaires. Nous avons tous la forme SS.
Madame Hima Fatima, vous êtes présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose créée en 1996. Que dire sur cette maladie qui touche des millions de personnes dans le monde?
Merci, madame. Effectivement, nous, depuis 1996, comme vous le dites, nous sommes dans la lutte contre la maladie parce que nous sommes parents d'enfants drépanocytaires. Ben, c'est une maladie qui est très grave et pour laquelle et nos décideurs et toute la communauté doivent apporter une attention particulière. Parce qu'il faut vivre avec un enfant drépanocytaire pour savoir psychologiquement ce que nous vivons avec nos enfants drépanocytaires et financièrement ce que cette maladie nous coûte. Comme l'a dit le docteur Ibrahim et Faisal, donc nos enfants font le minimum 4 à 5 crises par an. Et on a estimé à travers une étude que chaque crise, le minimum qu'on peut dépenser pour une crise, c'est 54 000 jusqu'à 55 000. C'est le minimum. Et on peut aller à plus de 1 500 000 pour des complications. Pour ceux qui font des arthrites au niveau des hanches, ceux qui ont des problèmes osseux, tout ça là, où il faut placer des prothèses. Donc c'est pour dire que c'est une maladie qui n'est pas à la portée de tout le monde. Je pense que le SMIC ici au Niger, il fait à peu près 34 000. Pour quelqu'un qui touche 34 000 et pour une seule crise qui doit payer plus de 54 000, allez-y comprendre comment il peut gérer cette maladie avec sa famille. Il y a des familles qui ont plus d'un enfant drépanocytaire. Vous voyez combien ça nous coûte. Nos enfants, quand ils sont en crise, ils ne vont pas à l'école. Leur scolarité est perturbée. Ceux qui travaillent, ils désertent le service. Pendant plus d'une semaine jusqu'à un mois, il faut qu'il y ait des patrons compréhensibles pour savoir que ce n'est pas des enfants qui jouent la comédie pour ceux qui vont à l'école, qui peuvent s'absenter un mois. Parfois, il y a des enfants qui s'absentent 3 mois dans les 9 mois de l'année. Donc, vous voyez comment la scolarité est perturbée. Donc, nous gérons tout ça là en tant que parents, en tant qu'association.
Madame Hannatou, quelle analyse aussi faites-vous de cette maladie?
Pour nous, en tant qu'assistante sociale, nous gérons certains problèmes. L'analyse que nous faisons de la maladie, c'est une maladie qui est vraiment, comme les autres ont eu à le dire, extrêmement coûteuse. Et on se retrouve souvent avec des familles qui n'ont pas des moyens et qui se retrouvent avec plusieurs enfants malades. La prise en charge, elle n'est pas gratuite totalement, mais quand même souvent, nous avons des aides au niveau du ministère de la Santé, des associations aussi qui nous viennent en aide. Et les jours de la journée internationale, il y a des femmes qui viennent aussi en aide à ces patients.
Docteur Samna, comment se présente la situation de cette maladie au Niger? Est-ce qu'il y a des chiffres à l'appui?
Et la situation de la drépanocytose au Niger, nous, on a la situation des patients suivis au centre. Parce qu'il y a des malades qui se dirigent directement au centre pour se faire dépister. Ou bien déjà, ils ont déjà un enfant drépanocytaire. Quand ils arrivent à mettre au monde d'autres enfants, ils viennent le faire dépister. Ou bien des fois, ils les laissent jusqu'à l'apparition des complications. Et même à travers les complications, ils posent le diagnostic, ils soupçonnent déjà la maladie. Et il y a dans les autres structures, les autres professionnels de santé qui posent le diagnostic, qui nous réfèrent. Et à l'intérieur du pays aussi, on nous réfère.
D'accord.
Actuellement, et la file active au centre qui est enregistré et suivi, on est à 8040 dossiers drépanocytaires suivis.
8040 qui se sont déclarés au centre.
Qui se sont déclarés suivis au CNRD. Oui.
D'accord. Au sein de votre association, est-ce qu'il y a des chiffres aussi?
Donc, nous savons que sur le nombre de la population, il faut compter les 23% qui sont porteurs de traits drépanocytaires. Donc, moi, je sais qu'il y a plus de 3 millions de personnes dans la population qui sont porteurs de traits drépanocytaires.
3 millions?
Oui.
D'accord. Dans tout le Niger?
Dans tout le Niger.
D'accord. Madame Hannatou, comme le docteur Ibrahim l'a notifié, le centre a été créé à Niamey pour combattre la maladie. Qu'en est-il de la prise en charge alors au Niger?
Donc la prise en charge a deux volets. Il y a le volet médical et le volet prévention. Donc la prévention s'est faite à travers les sensibilisations. Donc le matin au centre, on regroupe les patients qui viennent avec leurs accompagnants. On leur fait une sensibilisation sur la maladie. Donc on leur donne des informations comment vivre avec la maladie. Après ça, c'est ce qu'on appelle éducation thérapeutique de groupe. Après, quand ils passent chez les médecins, ensuite ils reviennent pour l'éducation thérapeutique individuelle. Donc là, le patient est pris seul, si c'est un adulte, ou bien accompagné de ses parents. Donc c'est là qu'on fait l'éducation individuelle.
D'accord. Est-ce qu'il y a des avancées significatives? Avez-vous l'impression que ces sensibilisations-là sont assimilées?
Oui, il y a des avancées parce qu'actuellement, il y a des patients qui font moins de crises qu'avant qu'ils ne soient suivis. Avant le suivi, Faisal est là, peut-être il peut témoigner qu'il y a des patients que avant que le centre ne soit créé, et Aja est là aussi, ils passaient plus leur temps dans les hôpitaux que maintenant qu'ils font le suivi. Donc avec l'éducation thérapeutique, c'est des informations qu'on apporte aux patients, comment vivre avec la maladie. Donc on les incite à se connaître eux-mêmes, à connaître la maladie et à comprendre les signes, les complications, les facteurs de risque. Qu'est-ce que si je fais ça, ça peut me déclencher la crise? Donc c'est ça, l'éducation thérapeutique qu'on
D'accord.
leur fait.
Madame Hima, vous avez mené un plaidoyer auprès des institutions étatiques et le consulat de Monaco en vue de la création d'un centre de référence de la drépanocytose, ce qui a abouti en 2010. Pour revenir en arrière, parlez-nous de ce processus.
Avant 2010, donc, tous les parents des enfants drépanocytaires se retrouvaient au niveau de l'hôpital national, au niveau des deux pédiatries, la pédiatrie A pour ceux qui ont les petits-enfants et la pédiatrie B pour ceux qui ont les enfants de plus de 7 ans. Quand on amène nos enfants en situation de crise, parfois en cas d'urgence, on se retrouve dans ces deux pédiatries alors qu'on trouve encore d'autres enfants qui sont venus en consultation. Donc très souvent, il y a toujours une bousculade, comment prendre l'enfant drépanocytaire qui vient en état de crise ou bien qui a besoin d'une prise en charge urgente. Donc très souvent, les parents se bousculent. Il y en a qui sont compréhensibles, qui peuvent laisser prendre en charge l'enfant qui pleure ou bien qui a une fièvre de plus de 30 degrés ou bien qui est venu avec plusieurs douleurs, qui ne peut même pas s'asseoir. Donc, c'est après toutes ces discussions que le feu professeur Abd Sanda, qui était le médecin au niveau de la pédiatrie B, le jour-là, j'étais là-bas en consultation avec mon enfant. Il est sorti et puis il a trouvé qu'il y avait des bousculades et même des tiraillements entre des parents qui ne voulaient pas laisser passer un enfant drépanocytaire qui est en cas d'urgence. Et c'est en ce temps-là qu'il nous a donné l'idée. Il nous a dit, vous, les parents drépanocytaires, pourquoi ne pas créer une association? Donc, il nous a donné cette idée-là. Et l'idée est partie. On s'est retrouvés, j'ai consulté des parents qui étaient là avec moi et on a écrit les statuts et les règlements intérieurs. supérieure, parce qu'effectivement, il fallait sortir les enfants drépanocytaires au sein de l'hôpital national qui ne répondaient pas à nos aspirations, qui n'avaient pas le personnel disposé pour la prise en charge immédiate des cas d'urgence des enfants drépanocytaires. Donc, on a pu contacter le consulat de Monaco et on a présenté le projet au niveau de la princesse Caroline de Hanovre qui a aussi accepté. Et donc, le centre a été construit en copartenariat avec la principauté de Monaco elle-même.
Mmh. Quelle appréciation avez-vous des prestations de ce centre actuellement en matière de prise en charge?
Mais le centre, maintenant, il répond aux aspirations des malades et des parents de malades. C'est un centre qui est devenu spécialisé dans la prise en charge des malades. Tout le personnel qui est là est à la disposition des malades. Donc, la prise en charge, elle est coordonnée et elle répond à nos attentes.
D'accord. Faisal, comment est-ce que vous vivez avec la drépanocytose? Est-ce que vous souffrez énormément?
Oh, la drépanocytose, et toi qui ne vis pas de la drépanocytose, tu ne peux pas comprendre à quel point cette maladie est très pénible. Parce qu'il faut être dans le corps d'un drépanocytaire pour comprendre la souffrance qu'il vit.
Expliquez-nous un peu ce que vous ressentez.
On vit dans la douleur. Tout le temps, on a mal. C'est les crises. On se sent mourir, on se sent partir. Des fois, on crie, on pleure, on roule par terre. Toi qui ne vis pas de la maladie, même si on t'explique, tu ne peux pas comprendre à quel point cette maladie est très pénible. Parce que déjà, nous, les drépanocytaires, on nous prend pour des menteurs. Parce que tu es là, tu vas bien, tu causes bien avec les gens. 5 minutes après, je te retrouve à l'hôpital. Donc, il y a peu de gens qui comprennent, qui vraiment on dit vrai. Donc, c'est pas facile à expliquer. Il faut un parent drépanocytaire ou bien un drépanocytaire en tant que tel
pour comprendre
la douleur.
Donc, c'est une douleur qui est là en permanence.
En permanence.
Vous la ressentez tout le temps?
Tout le temps.
D'accord.
Tout le temps. 5 minutes, ça va. 10 minutes, ça va.
Quel est le traitement que vous suivez actuellement?
Partout où nous sommes, on a nos médicaments. Et le traitement, on essaie de prendre acide folique. Et maintenant, je suis sur Oudrea parce qu'on a vu que j'ai fait beaucoup de crises. Tout le temps, je suis à l'hôpital parce que la maladie même m'empêche d'avancer dans mes études. Même cette année, actuellement, j'ai été ajourné de l'école à cause de la maladie. On m'a mis sur Oudrea pour pouvoir un peu diminuer les crises. Et vraiment, ça va. Maintenant, dans le mois, je peux faire 2 crises. On peut m'hospitaliser 2 fois au CNRD. Des fois, les gens même sont fatigués de nous parce qu'ils disent que cette maladie-là, ça ne finit jamais. Tout le temps, on est à l'hôpital, les gens sont fatigués de nous rendre des visites. Tout le temps, on est seulement avec nos parents et vraiment aussi, les parents souffrent. Voilà, ils sont obligés de s'endetter.
Justement, le coût, combien ça vous coûte dans le mois?
Une seule crise, par journée même, on peut dépenser 50 000. Imagine, nous sommes 4 drépanocytaires. Des fois, il arrive qu'on nous hospitalise 2 mêmes sur le même lit. Ma petite sœur et moi, imaginez comment les parents font. Un seul enfant drépanocytaire, ce n'est pas facile. À plus forte raison, 2 sous le même lit à l'hôpital, vraiment, ce n'est pas facile. Et des fois, les cheveux blancs des parents et les barbes là, ce n'est pas facile. Ce sont les stress venant de nous. Ce n'est pas live. Personnellement, quand je suis malade, parfois même j'oublie. Je pense à mes parents. Comment mon père fera pour chercher de l'argent, pour faire les premiers soins même. Il n'y a pas quelqu'un qui nous appuie.
Quelle appréciation aussi faites-vous de la prise en charge au niveau du centre?
Avant qu'il n'y ait pas le centre, là, qu'on n'a pas créé le centre, vraiment, nous souffrons beaucoup. Et c'est quand on avait créé le centre, il y a du mieux parce que quand tu es en crise, tu peux venir au centre. Mais avant qu'il n'y ait pas le centre, même si tu pars à l'hôpital, on ne s'occupe pas de toi. Avant la semaine, il y a plusieurs décès, juste par manque de prise en charge. Cette fois-ci, il y a le centre qui est là, il s'occupe de nous, ça va, alhamdoulilah.
D'accord. Madame Hima, en tant que parent de drépanocytaire et aussi présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire concernant toutes ces questions que je viens de poser à Monsieur Faisal?
Je vais intervenir par rapport au coût de la maladie, parce qu'au cours de cette semaine, j'ai mon fils qui était en crise, donc je sais de quoi il s'agit. Donc ce qu'on peut payer dans le mois pour un seul enfant, c'est entre 100 et 120 000 francs. Et donc, il parlait du stress des parents. Effectivement, les jeunes drépanocytaires, quand ils sont en crise, ils nous cachent la maladie parce qu'ils ont pitié de nous. Et parfois, c'est à nous, en tant que parents, c'est à nous de les surveiller pour savoir que la crise arrive. Ils font semblant qu'ils ne sont pas malades, tout juste pour qu'on ne dépense pas de l'argent pour eux. Cette maladie-là, psychologiquement, eux, ils sont affectés. Psychologiquement, nous, en tant que parents, on est affectés parce qu'on s'est dit que c'est nous qui avons transmis cette maladie à ces enfants-là. On se pose des questions et eux, à leur tour, ils cachent la maladie parce qu'ils pensent qu'ils sont aussi les fautifs pour pouvoir dégreffer l'argent de la famille. Mm-hmm. Donc, il faut vous mettre dans cette situation où on est tous fautifs l'un contre l'autre. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas une vie.
Madame Hannatou, vous avez écouté tout ce que M. Fessal vient de nous dire. Vous êtes assistante sociale au niveau du centre de référence de la prise en charge de la drépanocytose. Qu'est-ce que vous faites pour ces genres de patients qui pensent que les gens pensent qu'ils sont des menteurs? Comment est-ce que vous arrivez à les rassurer?
Généralement, le problème se pose au niveau des écoles, souvent. Mmh. Parce que c'est là-bas que l'enfant, quand il commence à faire sa crise, les enseignants, souvent, hein, je dis souvent, parce qu'il y a des enseignants qui ont compris et qui accompagnent directement l'enfant à l'école. Souvent, ils ont des problèmes pour avoir la permission, pour aller faire leurs besoins, parce que c'est des enfants qui doivent être réhydratés, qui doivent boire beaucoup d'eau. Et tant que la personne boit beaucoup d'eau, normalement, il doit aller aux toilettes souvent. Certains parents pense que souvent, les enfants cachent leur crise, comme Hajia l'a dit, et c'est arrivé à un stade où on ne peut plus cacher la crise que les parents amènent les patients au centre. Donc nous, on leur apprend dans l'éducation thérapeutique à reconnaître les facteurs. Déjà, il y a des facteurs, il y a des choses que quand l'enfant le fait, il faut s'attendre à la crise. Par exemple, si c'est un enfant qui joue au foot, donc ça peut déclencher la crise. Donc, on informe les parents, voilà les facteurs qui déclenchent la crise. Il y a aussi les signes annonciateurs de la crise aussi qu'on apprend aux parents à reconnaître. Donc, c'est ça. Il y a souvent aussi des enseignants, quand ils viennent, bon, on leur fait aussi un peu l'éducation thérapeutique, on leur apprend certaines choses par rapport à la maladie. Les patients adultes, on leur parle directement. D'ailleurs, à partir de 5 ans même, on cause avec l'enfant, on lui explique sa maladie.
Docteur Ibrahim, la crise douloureuse est un signe clinique majeur de la drépanocytose. Quels sont les facteurs déclenchants de cette douleur?
Les facteurs déclenchants de la douleur, là, elles sont multiples. Par exemple, comme Hajia le disait, un effort physique intense peut déclencher une crise. Parce que les drépanocytaires, il faut le savoir que ils sont anémiés de manière chronique. Et dans la définition, je vous ai dit que c'est une maladie qui affecte l'hémoglobine des globules rouges du sang. Or, les globules rouges, c'est eux qui transportent l'oxygène. Et donc, ils sont anémiés, ils n'ont pas assez de globules rouges pour transporter l'oxygène. Un effort que quelqu'un qui n'est pas drépanocytaire, qui juge ça banal, un drépanocytaire peut le faire et tomber dans l'hypoxie, et c'est la crise. Une fièvre qui n'arrive pas à se faire maîtriser, qui ne fait que grimper en fréquence peut déclencher la douleur encore, parce que plus ils font la crise, plus ils vont hémoliser, ils vont casser leurs globules rouges et c'est l'hypoxie qui va s'installer encore et l'hémolyse et la crise va se déclencher aussi.
Mmh, d'accord. Comment faire donc pour éviter les facteurs qui peuvent déclencher ces crises?
Voilà, les facteurs pour éviter ces crises-là, les déclenchants, c'est ça, l'importance de l'éducation thérapeutique. Parce que dès qu'un patient est diagnostiqué drépanocytaire au centre, dès qu'il se présente avec son électrophorèse au niveau du médecin, le médecin commence la prise en charge, on lui établit l'ordonnance systématique. Parce que c'est des patients qui sont sous traitement, ils prennent des médicaments même en étant en bonne santé.
D'accord. Et comment faire aussi pour calmer les crises?
Voilà, pour calmer les crises, tout ça là, c'est au niveau de l'éducation thérapeutique. Parce que comme Hajia vous a dit, c'est une maladie qui est coûteuse et elle est chronique. Donc, c'est pas devant toute crise, il faut venir au centre. Il y a des étapes dans la prise en charge de la douleur selon l'OMS qui a établi la prise en charge. Par exemple, un patient drépanocytaire en crise, quel qu'en soit son âge, il a ses antidouleurs adaptées à son âge et à son poids. On explique aux parents, ou bien si la personne est majeure et responsable lui-même, on lui explique, quand tu as mal, tu commences par tel médicament. Tu commences par palier 1, tu prends ça, 30 minutes après, ça ne va pas, change, ajoute celui-là. Et on insiste sur l'hyperhydratation, boire beaucoup d'eau. Tu fais ça sur 24 heures ou bien quelques heures après, tu vois que la douleur commence à s'atténuer. À la maison, tu continues ton traitement. Si malgré la prise en charge que tu fais à domicile, tu vois que la douleur ne fait que s'intensifier, tu n'arrives pas à supporter, là, il faut se rendre vite au centre. Et là, on va commencer une prise en charge par voie parentérale qui est à travers les sérums et injections.
Madame Hannatou, vous êtes assistante. Vous accueillez chaque jour des malades au centre. Expliquez-nous en quoi consiste votre assistance.
Donc, notre assistance à prendre les patients en charge. Par exemple, je vous ai expliqué, il y a des cas où l'enfant pique sa crise au niveau de l'école. Donc, quand les enseignants l'amènent, donc nous, on s'occupe de l'enfant en attendant que les parents soient là. On fait aussi l'éducation thérapeutique, comme l'a dit le docteur. Dès qu'un patient est connu de drépanocytaire, il prend son ordonnance systématique chez le médecin et c'est à nous d'expliquer aux parents ou bien aux patients même comment prendre ces médicaments, pourquoi les prendre. Et après, on lui explique aussi, on lui explique d'abord c'est quoi la maladie. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent sans connaître c'est quoi exactement la maladie. Ils pensent que c'est, en tout cas, ils pensent à beaucoup de choses. Donc, on arrive à leur éclairer, à leur donner des informations éclairées par rapport à la maladie.
D'accord. Madame Hima, quelles sont les actions que vous menez en faveur d'une meilleure prise en charge des malades de la drépanocytose? Est-ce que vous mettez à la disposition des parents des malades un fonds d'appui au niveau de votre association?
Donc, les actions que nous avons pu mener quand au niveau du premier centre, et nous avons eu obtenir donc un financement où nous avons ouvert des lignes de crédit au niveau des agences de microfinance où nous permettons aux parents de venir prendre de prêts et même les jeunes drépanocytaires, les jeunes garçons comme les jeunes filles, pour faire des activités génératrices de revenus, pour pouvoir avoir suffisamment d'argent entre les mains pour acheter les médicaments et puis supporter la prise en charge à n'importe quelle aide qu'elle peut subvenir. Nous avons fait cette activité pendant au moins 4 ans. Donc, nous avons arrêté ça parce que les fonds étaient épuisés. Mmh. Donc, nous faisons surtout beaucoup de sensibilisation. Et parfois, quand on a des financements, nous achetons des médicaments que nous mettons à la disposition du centre lui-même pour une prise en charge gratuite en cas, des cas d'urgence. Mmh. Voilà ce que nous avons pu faire.
Docteur Ibrahim, peut-on guérir de la drépanocytose?
Et la drépanocytose, c'est une maladie qui est génétique et héréditaire qui touche les globules rouges du sang. Donc, ça touche le sang, on vit avec son sang. Mmh. De nos jours, on peut se guérir de la drépanocytose selon les avancées scientifiques de la médecine à travers la greffe de la moelle. Mais cette greffe de la moelle, le gros problème, c'est quoi? La greffe, c'est pas à la portée de n'importe qui. Mmh. Par exemple, ce traitement, même dans les pays développés, où leur histoire d'assurance maladie qui sont pris en charge ne prend pas en compte la greffe de la moelle. Ce qui fait en sorte que, de nos jours, même chez eux, là, vous pouvez prendre 100 drépanocytaires, vous allez trouver à peu près une dizaine ou bien moins d'une dizaine qui ont pu bénéficier de la greffe de la moelle. Donc, on peut dire qu'on peut se guérir, mais vraiment, ici en Afrique, plus précisément au Niger, la greffe n'est pas à notre portée. D'accord. On a seulement dans les avancées et de la prise en charge de nos jours, comme Fessal l'a dit, c'est un patient qui fait des crises à répétition. En un mois, il peut te faire 4 crises, 6 crises. Donc, on les libère aujourd'hui. Des fois même, le temps que toi, le médecin qui le libère, le lendemain, tu le reviens, tu le retrouves encore en salle. Donc, du coup, il y a un problème financier qui est là. Psychologiquement, ça joue sur lui. Financièrement, on n'en parle même pas. Mm-hmm. Donc, dans les avancées thérapeutiques de la prise en charge de la maladie, de nos jours, certes, en Europe, et ils ont duré dans le traitement où on appelle ce qu'ils disaient IDREA, qui est l'hydroxycarbamide. C'est un traitement dans le cadre de la drépanocytose. On a commencé ça ici au CNRD en 2018, qu'on a commencé à introduire l'IDREA dans la prise en charge des patients drépanocytaires. L'IDREA, c'est un médicament qui se prend si l'organisme du patient accepte ça. C'est un médicament qui se prend à vie. L'avantage de ce médicament, ça améliore le confort de vie. Comme Fessal vous dit, il fait moins de crises maintenant. Si c'est des patients qui font plus d'anémie, ça réduit les anémies. L'hospitalisation, un drépanocytaire, on ne peut pas dire qu'il ne fait pas de crise. Ça, c'est impossible. Même dans les pays où le plateau technique est très développé, un drépanocytaire, il y a des moments où il rentre en crise. Ce traitement améliore le confort, espace les crises et ça joue même sur la drépanocytose en tant que telle. Parce que c'est quoi le but de ce médicament dont je vous parle? L'IDREA, un patient qui est sous IDREA, c'est comme si ça diminue le pourcentage de son hémoglobine, est-ce qui est la cause de son problème? Mm-hmm. Seulement le D'accord. traitement a un coût. Voilà.
Sans pour autant vous alarmer, M. Fessal, d'aucuns disent que les malades de la drépanocytose n'iraient pas très loin en espérance de vie. Est-ce une réalité?
D'accord. Et de nos jours, avec l'avancée de la prise en charge, ça c'était une histoire ancienne, je dirais. Mm-hmm. Parce que de nos jours, un drépanocytaire, avec l'ouverture du centre, les drépanocytaires sont suivis. Ce n'est pas seulement un drépanocytaire au centre, on s'occupe uniquement du volet urgence et hospitalisation. Il y a le volet médical s'occupe de l'urgence, hospitalisation et suivi drépanocytaire. Quand on dit suivi drépanocytaire, ça veut dire qu'on les suit parce que c'est une maladie chronique. Elle a ses complications aiguës et tout compte fait, c'est une maladie chronique, elle a ses complications chroniques. Donc, ils sont suivis de manière périodique. On a des drépanocytaires venant des 8 régions du Niger. Donc, selon la provenance du malade, il y a des malades qui sont vus chaque trimestre. Chaque trimestre, même en étant en bon état de santé, il faut qu'ils viennent au centre pour un bilan clinique et paraclinique. Et il y en a qui viennent chaque 4 mois. Il y en a en fonction de la distance, on les voit une seule fois dans l'année, il y en a 2 fois dans l'année. D'accord. Donc, on peut dire que de nos jours, l'espérance de vie des drépanocytaires, vraiment, le drépanocytaire a une espérance de vie, une même espérance de vie qu'une personne non drépanocytaire.
D'accord.
Parce que Hadjia peut vous témoigner, en tant qu'assistante sociale, on a des drépanocytaires SS. Faisal, il a 24 ans. Et avant, les jeunes disaient qu'un drépanocytaire ne peut pas dépasser 5 ans. S'il a atteint 10 ans, ah, vraiment, c'est à applaudir
c'est
pour
ça.
Lui.
Mm-hmm.
De nos jours, on a même une drépanocytaire SS qui a 62 ans. On a une drépanocytaire SC qui a 75 ans.
C'est
elle est
bien.
Tellement vieille où c'est son petit-fils, chaque fois qu'il l'amène au rendez-vous,
mm-hmm.
elle ne rate jamais son rendez-vous.
Ça, c'est super. Mais est-ce qu'on peut prévenir la maladie?
Et la prévention de la maladie, c'est ça le volet et services sociaux et sensibilisation. De nos jours, comme c'est une maladie génétique et héréditaire, la seule prévention de la maladie, c'est de se faire dépister avant le mariage qu'on ait le dépistage prénuptial. Parce que si avant le mariage, chacun connaît son statut, si tu sais que tu es AA, donc tu peux te marier à une drépanocytaire SS ou bien à un porteur de traits drépanocytaire, mais tu sais que tu es AA, le partenaire que tu veux prendre, tu sais que tu es AS, le partenaire que tu veux prendre, il est AS. Donc ça veut dire que c'est ça, dans le volet où je vous ai parlé du conseil génétique, le centre va vous faire un conseil génétique. Parce que c'est quoi l'importance du conseil? On vous explique le risque. Parce que le risque en est que deux AS qui se marient, à chaque grossesse qu'ils auront, chaque fois il y a un risque d'avoir un enfant de drépanocytaire. C'est pas que tu as un enfant de drépanocytaire, prochainement tu vas pas. Non, non. Chaque grossesse contractée, il y a un risque d'avoir un enfant de drépanocytaire jusqu'à ce que l'enfant là vient au monde, on le dépiste. S'il est drépanocytaire, là il rentre dans le camp du centre de la prise en charge. S'il est porteur de traits drépanocytaires ou bien AA normal, là on se met deux, on essaie de faire un conseil génétique approfondi et très pertinent à deux porteurs de traits drépanocytaires.
D'accord, docteur Ibrahim. La drépanocytose, quelle stratégie pour une meilleure survie? C'est le thème que vous avez choisi pour célébrer l'édition 2022. Pourquoi le choix de ce thème?
Le choix de ce thème, c'est toujours dans le cadre de l'avancée de la prise en charge que je vous ai dit. Parce que la drépanocytose, ça a une complication multiple. Un drépanocytaire, il peut te faire un AVC comme un hypertendu peut te faire. Un drépanocytaire, à la longue ou bien dès qu'il atteint une certaine âge, tu peux le voir marcher avec canne comme une vieille personne. Donc maintenant, avec l'avancée de la prise en charge, c'est ça qu'on veut au moins faire comprendre aux malades, aux patients aussi, et à leurs parents et à la population. Par exemple, prendre en charge un enfant très tôt, s'il est bien suivi, ces complications-là, même étant les complications aiguës, on peut les différer et les complications chroniques, on peut les retarder.
Faisal, quels conseils pouvez-vous donner à l'endroit des malades de la drépanocytose afin de mieux vivre avec la maladie?
Bon, le conseil que j'ai à donner pour nous, les drépanocytaires, nous, les adolescents, c'est nous qui connaissons notre maladie. Donc, il y a certains trucs qu'on ne peut pas faire. Il y a certains mouvements qu'on ne peut pas faire. Donc, en tant que malade, on sait ce qui déclenche la crise. Il y a beaucoup de choses qu'on déconseille, que les médecins nous déconseillent à faire. Et un drépanocytaire, il ne peut pas faire du foot, il ne peut pas faire des travails, des efforts physiques. Il est là, un drépanocytaire, son but, c'est de lire, de se reposer,
d'être sage
quoi. Oui. Mais ce n'est pas facile aussi.
De ne pas trop en mouvement.
Parce qu'il y a des enfants drépanocytaires, chaque fois ils voient leurs amis qui ne sont pas porteurs de la maladie, ils font beaucoup d'efforts et c'est ce qui les encourage d'aller faire. Soudainement, la crise va se déclencher.
Est-ce que psychologiquement, le fait de ne pas jouer comme vos camarades joue sur vous?
Psychologiquement, ça joue sur nous.
Oui.
Parce que même à l'école, il y a des trucs qu'on demande des volontaires à faire. Mais nous, les drépanosters, on veut faire, on veut assister. Mais ce n'est pas possible. Mm-hmm. Parce que dès qu'on assiste, c'est l'exigence directe. On se retrouve à l'hôpital. Donc ça aussi, ça joue sur nous, quoi.
Mm-hmm.
Des fois même, il y a des stress. Il y a même des amis, c'est nos amis qui se moquent de nous, quoi. Mm-hmm. Parce qu'ils disent, ah, vous là, vous ne pouvez rien faire. Sauf vous pouvez manger, regarder télé, seulement ce qu'on peut faire.
Mm-hmm.
Et ce n'est pas de notre volonté aussi. Nous-mêmes, on veut faire ce qu'ils sont en train de faire, mais ce n'est pas possible. Mm-hmm. On ne peut pas faire. Parce que si on risque de se retrouver à l'hôpital.
Mm-hmm.
Donc, c'est des urgences directes.
Une dernière question, Madame Hannatou. Quels sont vos conseils ou recommandations pour une meilleure prise en charge de la drépanocytose au Niger et assurer une meilleure survie à ces malades?
D'accord. Mm-hmm. Donc, on conseille aux parents, comme le docteur l'a dit, de faire le dépistage avant les complications. C'est très important que le patient drépanocytaire soit dépisté avant qu'il ne commence les complications. On conseille aussi aux parents de faire le suivi. Donc, dans le suivi, il y a souvent, on leur demande de faire des bilans. Et les bilans, là, permettent souvent de savoir que l'enfant, là, a des risques et on peut corriger. Donc, c'est très important pour les parents de faire le suivi et de respecter les rendez-vous des suivis et de suivre les enfants aussi tant au niveau scolaire qu'à la maison. Donc le suivi, ce n'est pas seulement accompagner le patient, l'amener au centre et ensuite, non. Il faut aussi que les parents sachent que les conseils qu'on leur donne, ça doit être utile à l'enfant.
Oui, et concernant le suivi, j'insiste toujours sur le suivi. Parce qu'un drépanocytaire suivi épanouit vraiment à sa vie. Parce que s'il est bien suivi, le volet suivi, parce que c'est des sujets très vulnérables. Donc, quand ils sont suivis, dans le cadre du suivi, même il y a des carnets, ils sont vulnérables, sujets à des infections banales comme ça. Donc, avec leur statut vaccinal à jour, donc c'est un enfant et c'est des enfants vraiment qui peuvent faire un bon moment sans être en crise.
Mm-hmm.
Mais un enfant, comme si vous prenez deux catégories d'enfants, un enfant suivi régulièrement, un enfant mal suivi, leur développement même psychosocial même est différent comparé à l'autre qui est mal suivi ou qui n'est même pas suivi.
D'accord. Donc, selon nos invités, 3 millions de malades souffriraient au Niger de la drépanocytose. Et pour mieux vivre avec la maladie, le mieux c'est de se faire dépister à l'avance et d'effectuer des suivis réguliers afin aussi de mieux vivre avec la maladie. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Dr Ibrahim Samna, médecin au Centre national de référence de la drépanocytose, en compagnie aussi de Madame Hannatou Hamidou, assistante sociale au Centre national de référence de la drépanocytose, de Madame Hima Fatimata, présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose, et de Monsieur Faisal, un malade de la drépanocytose. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios et 7 télévisions partenaires. À la technique, c'était Mustapha Ayouba. À la régie vidéo, Seni Isaka. À la présentation, Rafika Taher. Merci et au revoir.